Les suites de l'accord de Bougival, il est remis en cause par la commission exécutive de l'ICEE. Le Palikat lui confirme son adhésion à cet accord. La multiplication des actes de délinquance le week-end dernier, aucun fait ne restera impuni, indique le haut commissaire dans un communiqué. 11 prévenus convoqués devant le tribunal correctionnel de Nouméa ce matin, ils comparaissent pour le trafic de drogue à l'île des Pins. En métropole, plusieurs élus qui ont voté la loi Duplomb pour soutenir le secteur agricole pris pour cible. Le ministre de l'Intérieur demande de la fermeté au procureur de la République. Et puis après une étape de repos, c'est un sommet mythique qui attend les coureurs du Tour de France la nuit prochaine pour nous. Ils s'attaquent aux terribles pentes du Mont Ventoux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les élus du Congrès ont adopté hier une proposition de loi de pays visant à soutenir la relance des secteurs affectés par la crise. Présenté par l'intergroupe Les Loyalistes, ce texte présente plusieurs mesures fiscales qui se déclinent autour de quatre grands axes. Le premier propose de relancer le secteur de l'immobilier en encourageant la reprise des transactions immobilières. Le texte espère également favoriser l'installation et le maintien sur le territoire des professionnels de santé, notamment des infirmiers, en proposant un dispositif fiscal incitatif. Enfin, la proposition de loi de pays souhaite encourager la reprise de la consommation en agissant sur le pouvoir d'achat des Calédoniens, mais aussi inciter les entreprises qui ont subi des pertes à réinvestir en Calédonie. Texte qui a été adopté par 28 voix. Il y a eu 15 abstentions. Nous y reviendrons dans le magazine citoyen dès la fin de ce journal. Nous serons en compagnie notamment de Françoise Suvet, chef du groupe loyaliste, du docteur Saïdi, président du collectif Santé en danger et d'un membre de la Fédération des agents immobiliers. Le camp indépendantiste exprime ses divisions. Cette fois-ci, c'est le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui traduit les divergences entre l'UCE et le Palikat. Dès hier, la commission exécutive élargie de l'Union calédonienne rejetait le document signé à Bougival, Elisabeth Noir.
Dans un communiqué signé du secrétaire général de l'UCE, Dominique Fauchy, la commission exécutive élargie de l'Union calédonienne procède en effet à une démolition en règle du document, en écrivant notamment que les fondamentaux du combat du peuple kanak n'apparaissent pas dans le projet d'accord signé à Bougival. La commission exécutive élargie de l'UCE affirme ensuite que le projet d'accord présente de très faibles perspectives de sortie du joug colonial et qu'il propose des attributs de souveraineté de façade. Elle ajoute que la nationalité n'en est pas une car elle est assujettie à la nationalité française, que le transfert des compétences régaliennes présente des verrous infranchissables, que la reconnaissance internationale n'est pas vraiment précisée, et enfin que le gel du corps électoral est synonyme de recolonisation de notre pays. Une critique systématique du fond de l'accord, mais la commission exécutive dénonce aussi les stratégies de l'État qui, et je cite, continue d'ignorer la contestation du référendum de 2021 par le FLNKS, un État qui se défausse de sa responsabilité dans la révolte du 13 mai, qui trouve sa source dans le projet de loi constitutionnelle portant ouverture du corps électoral. La commission exécutive de l'UCE dénonce aussi la méthode de dialogue qui pose question autant que la communication à l'issue de la signature du projet d'accord qui, écrit-elle, reste à ce stade un projet. Elle indique enfin qu'au vu de ces premiers éléments, le comité directeur du 26 juillet se positionnera sur les perspectives à donner pour la suite des discussions sur l'avenir politique du pays. Fin de citation de ce communiqué de la commission exécutive élargie de l'UCE. L'Union calédonienne qui prend donc très clairement ses distances avec l'accord qui a pourtant été signé, rappelons-le, par son président Emmanuel Tchibaou, par Roch Wamitan, Michael Forest et Omer Haneslin, qui sont tous des élus UCE.
Et à l'inverse, Elisabeth, le Palikat défend le projet d'accord. C'est le sujet de la motion sur l'avenir politique et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie qu'il a adoptée lors de son congrès extraordinaire réuni samedi à Vaud.
Oui, une attitude complètement différente de la part du Palikat qui rend publique cette motion adoptée samedi. Le Palikat considère que le projet présenté par ses négociateurs réaffirme les orientations fondamentales de l'accord de Nouméa et qu'il constitue une avancée politique majeure. Selon le Palikat, le projet d'accord poursuit les grands objectifs d'émancipation et de décolonisation fixés par les accords de Matignon et de Nouméa, en actant la création et l'émergence de l'État de Nouvelle-Calédonie. Et il fixe le chemin d'accès progressif à la souveraineté sur des bases innovantes, nouvelles, inédites et inéluctables. Le Palikat cite la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, l'institution d'une nationalité calédonienne, le transfert des relations extérieures à la Nouvelle-Calédonie, l'accès à un statut international ou encore l'association de la Calédonie à l'exercice des compétences régaliennes. Le Palikat estime par ailleurs que le cheminement vers la souveraineté se traduit par une capacité d'auto-organisation très élargie. Sur ces fondements, le Congrès extraordinaire du Palikat acte ce projet d'accord comme une étape nouvelle dans la décolonisation et l'émancipation du pays. Le Congrès extraordinaire du Palikat qui exhorte les structures du parti à prendre toutes les initiatives pour que le projet recueille l'adhésion du plus grand nombre et il appelle à porter ce projet d'accord en vue de son adoption lors de la consultation prévue au début de l'année 2026. On rappelle que le Palika était représenté dans les négociations de Bougival par Jean-Pierre Diaoué et Adolphe Digoué. Victor Toutougoro était également avec eux pour compléter la délégation unie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier. 57% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le FLNKS va finalement valider l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie que sa délégation a signé à Bougival. Ils sont 43% à penser à l'inverse que le FLNKS ne va pas le valider. Voici notre question du jour. Les exactions, les violences urbaines et les incendies qui se multiplient ces dernières semaines sont-ils selon vous des actes de délinquance politique? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. À ce propos, le haut-commissaire condamne avec la plus grande fermeté les multiples actes de délinquance du week-end dernier. Dans un communiqué publié hier soir, Léana Colombo, Jacques Billon affirme qu'aucun fait ne restera impuni.
Oui, il a demandé à la police et à la gendarmerie de renforcer leur dispositif de sécurité afin d'être plus visible et plus réactif sur l'ensemble du territoire pour mieux lutter contre tous les types de troubles à l'ordre public. Le haut-commissariat indique par ailleurs que 5 personnes ont été interpellées pour des violences urbaines commises à Nouméa dans la nuit de vendredi à samedi dans les quartiers de Caméré, Normandie et Pierre-Lanquette. Il annonce également que 2 personnes ont été placées en garde à vue pour l'incendie de Plastinor à Pointe-Bout et 4 personnes ont été arrêtées lors d'un cambriolage à Farino au cours duquel un enfant a été agressé. Dans un communiqué, les communes de Boulou-Paris, Farino, La Foy, Moindou et Saraméa appellent à une réaction immédiate de l'État pour lutter contre l'insécurité. La maire de La Foy, Florence Roland, déplore cette montée en puissance de la délinquance.
Nous assistons à des actes de délinquance, des atteintes aux personnes sur nos communes. Et bien, une escalade inquiétante de cette délinquance-là sur nos communes rurales. Les communes, aujourd'hui, ont besoin d'un soutien renforcé bien du gouvernement et des provinces qui nous accompagnent aussi pour mener ces actions de prévention de la délinquance. Nous avons mis en place des mesures de prévention de la délinquance sur nos communes. Nous avons mis en place des caméras de vidéoprotection. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une réaction immédiate de l'État. Mais nous avons besoin de plus de contrôle, d'un renforcement de ces effectifs-là, et puis bien évidemment d'une réponse judiciaire claire.
Dans ce communiqué, les maires des communes appellent la population à rester unie, solidaire et responsable et à refuser les appels à la violence.
On ne construit pas la paix sur des cendres, affirme de son côté le Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie dans un communiqué publié également hier. Le parti déplore des actes de délinquance politique dans la sinistre continuité des événements du 13 mai 2024. Pour le Rassemblement national, ces exactions sont le symptôme d'un territoire profondément fracturé et il fustige un accord censé ramener la paix dont les signataires semblent incapables de convaincre leurs propres partisans. Pour le Rassemblement national, aucune négociation, aucune avancée politique ne peut se faire dans un climat de menaces et de chantage. Et il appelle les partis indépendantistes à condamner ces actes publiquement et à cesser d'utiliser la rue comme argument politique. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, 11h38.
Dans l'actualité judiciaire, Eli Païta condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis. Il portera un bracelet électronique pour aménager sa peine de prison ferme. Le 3 juin 2024, dans le col de la pirogue, alors qu'il participait à des exactions sur la RT1, il avait percuté un véhicule transportant des gendarmes en civil. D'autre part, 11 prévenus sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour le trafic de drogue à l'île des Pins ce matin. La drogue avait été retrouvée en mer de manière fortuite en 2024 et ils avaient décidé de la revendre sur l'île des Pins et aussi dans le Grand Nouméa. C'est donc une audience exceptionnelle pour un procès hors norme qui se tient ce matin, selon les mots même du président du tribunal, Nicolas Legrand.
Oui, une audience exceptionnelle qui a débuté avec 2 heures de retard ce matin en raison des difficultés d'organisation. Les faits reprochés ont ensuite été communiqués aux 11 prévenus poursuivis dans ce dossier. Il s'agit de 11 hommes âgés de 27 à 59 ans, la plupart pêcheurs à l'île des Pins. L'un d'eux ayant découvert des ballots de cocaïne flottant en mer, il a ensuite décidé de vendre la drogue à l'île des Pins, mais aussi dans l'agglomération du Grand Nouméa. Parmi les prévenus, ses complices qui ont stocké et revendu cette cocaïne, mais aussi des dealers placés à Nouméa. Pour le moment, le fond du dossier n'a pas été abordé puisque Maître Calmet, l'avocat d'un des mis en cause, a soulevé des nullités. Il estime que la procédure est entachée d'irrégularités, notamment au moment du placement en garde à vue de son client qui venait d'être arrêté par le RAID à Magenta. Il demande donc la nullité de la procédure et la remise en liberté de son client car selon lui, il ne peut pas y avoir de peine juste sans procédure irréprochable. Puis Maître Brunard plaide à son tour des vices de forme pour son client Elle estime notamment avoir été prévenue trop tardivement du placement en garde à vue de celui-ci. La procureure de la République a ensuite répondu point par point avant que le tribunal ne se retire il y a quelques instants pour délibérer sur ces questions. Ce sont évidemment des débats très techniques sur le code de procédure pénale. C'est un procès, vous l'avez dit, hors norme, à plus d'un titre. D'abord en raison de cette histoire inédite sur le territoire de pêcheurs de l'île des Pins qui s'improvisent dealers de drogue dure. Et ensuite, c'est aussi un procès hors norme en matière de procédure. Les débats doivent se poursuivre toute la journée et même une bonne partie de la soirée. Au tribunal de Nouméa, Nicolas Legrand, RRB.
À 11h41, la première pause de ce journal. On voit dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu, à seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
Du 14 juillet au 3 août, facilitez-vous le travail du sol. La tarière thermique d'Otan 49 cm3 est à 24 990 francs seulement. Alors n'attendez plus pour en profiter. Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland.
Cultivez votre bien-être.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec l'actualité militaire et cette passation de commandement ce matin à la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein de la Tontouta. Le T-52, c'est-à-dire l'escadron de transport 52, a en effet un nouveau commandant, Lionel Sabot.
La cérémonie de passation de commandement s'est déroulée sur le grand parking de la base aérienne où avait été installé un hélicoptère Puma et un avion Kaza qui sont les vecteurs aériens de cet escadron bien connu des Calédoniens. En présence du général de division Yann Latil, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, et du colonel Alban Jorg Grandpierre, le commandant de la base aérienne. Le lieutenant-colonel Fabien Berry a officiellement quitté son commandement après 2 années passées à la tête de l'ET-52, un commandement qui aura bien évidemment été marqué par les émeutes insurrectionnelles de 2024.
Une année 2024 qui s'est vue doubler son activité tant en Kaza qu'en Puma. 3 mois pendant lesquels on a fait l'activité équivalente à un an habituel. Une activité exceptionnelle, intense, mais qui a soudé les troupes et qui du coup... pour moi, rend encore plus difficile de quitter ce territoire, ce très bel escadron. Il y a eu des moments difficiles et des moments extraordinaires, mais à la fin, on retient que les moments extraordinaires, que cette cohésion qui était excellente dans cet escadron, cette envie de bien faire et ces deux défis relevés, notamment pendant la crise en 2024.
Le lieutenant-colonel Fabien Berry qui a donc quitté, non sans émotion, son commandement. Il va désormais rejoindre la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. Ce matin, devant l'ensemble des personnels de la BA-180, c'est le commandant Antoine qui s'est fait reconnaître comme le nouveau chef de l'escadron de transport 52 de la Tontouta. Le commandant Antoine qui connaît bien cette unité.
J'ai commencé par faire chef opération, puis commandant second. Et aujourd'hui, il y a commandant d'unité. Donc c'est un peu l'achèvement de cette série. C'est une unité que j'ai à cœur de commander parce que j'ai partagé avec eux notamment la crise. Je suis conscient de la qualité et de l'engagement, de quoi sont capables les hommes et les femmes qui la composent. Et donc, j'avais vraiment à cœur de commander cette unité-là par rapport aux autres. On est surtout là, en soutien des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Également au profit de la population, on tient une alerte H24, 7 jours sur 7, pour les évasades et pour le sauvetage en mer. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui est notre cœur de mission. Et au-delà de ça, on va faire plein de missions de transport en Kaza, en Puma, du rayonnement dans la zone de responsabilité du COMSUP. Donc c'est vraiment très varié. On a vraiment un vaste panel d'outils à notre disposition avec le Puma et le Kaza.
Et j'ajoute que l'an prochain, l'escadron de transport 52 va avoir sa flotte d'hélicoptères renouvelée. Les Pumas seront remplacés par des Airbus H225M Caracal.
Et pour poursuivre ce journal, intéressons-nous au forum calédonien sur le changement climatique qui a lieu aujourd'hui à l'UNC en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette deuxième édition doit permettre au plus grand nombre de faire le point sur les avancées de la stratégie calédonienne du changement climatique, mais aussi de présenter des projets locaux de recherche menés par la jeune génération. Jérémy Katidjo Monnier, membre du gouvernement en charge notamment de l'environnement et de la transition écologique, était notre invité ce matin. Il a entre autres abordé les politiques publiques déjà mises en place sur le territoire pour lutter contre ce changement climatique.
On voit par exemple en province Nord qu'il y a un plan climat qui existe depuis plusieurs années. Pour le gouvernement, on avait sur l'atténuation face au changement climatique le STANC, le schéma de la transition énergétique calédonienne, aidé par l'Union européenne, on voit tous les efforts qui ont été faits sur le photovoltaïque, par exemple, et sur l'adaptation, puisqu'on aura beau essayer d'atténuer, on se rend compte qu'il y aura des effets qui arriveront malgré tout et qu'il faut déjà commencer à se préparer. Et c'est ça l'adaptation, et d'où l'intérêt de ce forum, pour voir, par exemple, sur l'érosion du littoral, quelles stratégies on peut mettre en place, quels exemples qui peuvent être des succès en Nouvelle-Calédonie peuvent être éventuellement répliqués, et avancer ensemble face à des risques qui vont se concrétiser dans les prochaines années.
Une interview de Jérémy Catidjo-Monnier qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Toute la journée, tables rondes et séminaires vont se succéder au sein de l'université pour ce forum, qui est également l'occasion pour l'initiative Kiwa d'annoncer ses prochains projets, Léana Colombo.
Au départ, 166 candidatures ont été reçues venant de tout le Pacifique. L'appel à candidature s'est déroulé en 2023, mais ce n'est que cette année que 15 projets ont été sélectionnés, dont 4 en Nouvelle-Calédonie. Pour un budget de plus de 75 millions de francs, en partie financé par l'AFD. Estelle Rosilio, coordinatrice technique sur le projet Kiwa, fait partie de l'association AGRNC qui a été lauréate sur le territoire. Avec ce prix, l'association souhaite promouvoir l'agroforesterie dans des fermes pilotes à Lifou ou encore à Thio.
Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter du matériel et du savoir. Et ce matériel et ce savoir, il est fait pour rayonner après autour de cet agriculteur. Et les formations sont publiques, il va y avoir tous ceux qui veulent qui peuvent venir. On cherche à avoir aussi une mixité, on cherche à ce qu'il y ait des hommes, des femmes qui soient là, qui sont intéressés, qui puissent aller chez cet ambassadeur de l'agroforesterie pour voir comment travailler avec le matériel et quels sont les principes et les savoirs qu'ils ont appris et qu'ils utilisent avec l'agroforesterie. Et c'est beaucoup plus simple pour des gens d'apprendre de quelqu'un qui est déjà en train de pratiquer, de voir l'évolution, de voir comment est-ce qu'il pratique, comment est-ce qu'il fait au sein de son champ pour après pouvoir recommencer chez eux. C'est comme une genre de parcelle vitrine qui va servir à former le plus de gens possible.
Les 3 autres projets calédoniens retenus sont une plantation d'espèces endémiques à Koumak, Marais et Lifou du Conservatoire de Botanique, l'association Calédocline pour un projet de refuge au Mont d'Or et au Hut pour la restauration de la mangrove à Touau.
Plusieurs projets en faveur du handicap ont été récompensés hier par la ville de Nouméa. 4 établissements scolaires et 7 associations sont les lauréats de cette édition 2025 d'un appel à projets qui vise à soutenir les initiatives permettant d'améliorer les conditions de vie et le quotidien des personnes en situation de handicap. Le premier prix a été attribué à la classe Ulysse du Collège de Normandie pour son projet Jeux Tsuro Géant. Le troisième prix lui a été remporté par l'Association pour la surdité. Emeline Amon, assistante de direction pour cette association.
Pour nous, c'est toujours un grand moment, les remises de prix du CSAS, parce que c'est un appel à projet à laquelle on participe tous les ans. C'est vraiment un projet pour les associations, les structures qui sont en faveur des personnes en situation de handicap et qui soutiennent ça malgré tout ce qui s'est passé. Pour nous, c'est un grand moment ce soir. On a présenté un projet cette année, un calendrier perpétuel en langue des signes française pour nos bénéficiaires sourds, qui sont donc en école primaire. Il est venu des besoins de terrain, en fait, de nos professionnels qui sont en classe avec les élèves sourds, d'un manque de matériel qu'on n'a pas, en fait, et donc on a créé ce dont on avait besoin pour nos élèves.
Cet appel à projet s'inscrit dans le programme du CCAS de la ville de Nouméa, Bien vivre son corps et son handicap. Valérie Leclerc est la directrice du Centre communal d'action sociale de Nouméa.
L'objectif, c'est à travers un financement qui est de 300 000 francs, de financer des activités, des dispositifs pour des enfants, des adultes en situation de handicap pour améliorer leur quotidien. Le top 1 revient au Collège de Normandie pour un jeu qui s'appelle le Tsuro. Et la particularité de leur projet réside dans le fait qu'ils ont associé la classe de SECPA et la classe d'Ulysse. Donc on a trouvé intéressant le fait d'associer différents élèves, mais surtout d'inverser les rôles pour une fois. Ce sont ces élèves-là qui vont être pilotes d'un projet et qui concernent l'ensemble des collégiens.
Ce sont 11 projets qui ont été retenus au final et qui vont se partager la somme de 2 596 267 francs pour leur réalisation. À 11h50, une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
La foire de Bourail est de retour les 15, 16 et 17 août. Faites votre carburant dans les stations Shell et Pacifique pour tenter de gagner un Toyota Hilux spécial foire de Bourail. Urne et tirage au sort à la foire le 17 août. N'oubliez pas de remplir votre bulletin de participation.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et on va revenir sur ce débat autour de la loi Duplomb. Elle a été adoptée le 8 juillet dernier et elle est censée faciliter le quotidien des agriculteurs, mais elle a ses détracteurs. Une pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale a recueilli plus d'1 300 000 signatures et la virulence de certaines oppositions fait réagir le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui demande de la fermeté au procureur de la République. Il faut dire que plusieurs élus qui ont voté le texte ont été pris pour cible. Certains ont reçu des menaces de mort, d'autres ont subi des outrages ou ont vu leur permanence dégradée. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 9 parlementaires ont déjà subi des atteintes physiques ou matérielles. Certains députés ont été vilipendés ou leur permanence saccagée. Sur les réseaux sociaux également, l'extrême gauche et les éco-terroristes se sont montrés très virulents. J'ai reçu des milliers d'insultes et des menaces de mort, confie le député d'hiver droite Aurélien Pradier. Ces mouvements radicaux ont ressurgi ce week-end depuis le lancement d'une pétition pour s'opposer à la loi Duplomb. Alors Gérald Darmanin monte au créneau et annonce vouloir poursuivre pénalement tous les auteurs de ces menaces. Le garde des Sceaux exige des procureurs une grande fermeté sur le sujet. Pour apaiser la situation, Marine Le Pen, elle, demande un débat parlementaire sur cette loi, même si l'ancienne candidate à la présidentielle dit regretter les mensonges relayés par la gauche et les médias feignants. Enfin, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, accepte la tenue de ce débat, mais ferme déjà la porte à la suppression de la loi Duplomb.
Les opposants à cette loi Duplomb, du nom, rappelons-le, de l'un de ses co-auteurs, parlent d'une aberration écologique puisqu'elle autorise l'utilisation d'un pesticide interdit en France depuis 2020, mais qui est pourtant toujours utilisé dans les autres pays européens. C'est une loi vitale pour la survie de l'agriculture française, selon Jérôme Bayle, figure de la contestation paysanne. Une loi qu'on ne peut pas réduire à la réintroduction d'un pesticide, explique-t-il.
La loi Duplomb, c'est pas que la cétamiprine, c'est la simplification administrative pour l'agriculture, c'est permettre la facilitation pour les retenues d'eau. Les Français aiment ses agriculteurs, mais pas son agriculture. Il va falloir peut-être aimer l'agriculture française, il a quand même la plus vertueuse au monde.
Et d'une manière générale, le monde agricole s'étonne du succès de cette pétition contre la loi Duplomb. C'est le cas de José Pérez, qui est président de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne.
Je ne comprends pas trop aujourd'hui que 1 300 000 personnes s'opposent à ce projet de loi. Si on ne produit plus en France, on continuera à importer des produits étrangers qui, eux, sont soumis à une réglementation qui est complètement différente de la nôtre. Et les consommateurs français en mange tous les jours et régulièrement.
Et on devrait savoir dans les jours qui viennent si un débat sans vote est donc organisé ou non à l'Assemblée nationale. Toujours en métropole, pour faire face aux violences urbaines, un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans a été mis en place dans certaines villes. C'est le cas à Saint-Ouen-sur-Seine, Limoges, Béziers ou encore Nîmes qui ont fait le choix de ce couvre-feu. Des villes où ont récemment eu lieu des fusillades dans les quartiers gangrénés par le trafic de stupéfiants. L'actualité économique est Stellantis dans le rouge. Le groupe automobile français accuse une perte nette de 2 300 000 euros au premier semestre 2025. C'est la conséquence d'un recul des ventes, de coûts de production en augmentation, mais aussi de la hausse des droits de douane américains. Alexis Bourdon pour Europe 1.
2 300 millions d'euros de pertes nettes au premier semestre, chute d'autant plus vertigineuse que sur les 6 premiers mois l'année dernière, Stellantis avait dégagé 5 600 millions d'euros de bénéfices. Le géant automobile aux 15 marques continue de souffrir sur le marché américain. Au deuxième trimestre 2025, ses ventes aux États-Unis ont chuté de 25%. Or, il s'agit là d'un marché stratégique, rappelle Flavien Nevy, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile.
C'est vrai que le marché nord-américain est très important pour Stellantis. D'abord parce que Stellantis possède des marques américaines très fortes. On pourrait citer l'exemple de Jeep, mais ce n'est pas le seul. Et puis surtout, le marché nord-américain a cette spécificité, c'est que la structure des ventes n'est pas du tout la même. On vend plus de gros véhicules, des gros pick-up, et ces véhicules-là coûtent plus cher et génèrent plus de marge pour les constructeurs. Donc c'est un marché qui traditionnellement était beaucoup plus rémunérateur pour Stellantis.
Ajoutez à cela les droits de douane de 25% imposés par Washington sur les automobiles. Stellantis chiffre d'ailleurs l'impact de cette mesure à 300 millions d'euros pour le seul premier semestre.
Et puis toujours en métropole, le dossier algérien continue de susciter des tensions au sein du gouvernement. Le week-end dernier, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, partisan d'une ligne dure, on le sait, avec Alger, a redit son agacement. Il veut en finir avec ce qu'il appelle la diplomatie des bons sentiments. Il est convoqué chez le président de la République. République, Jacques Serret.
En février dernier, au lendemain de l'attentat commis à Mulhouse par un islamiste algérien sous OQTF, François Bayrou lançait un ultimatum, 4 à 6 semaines, pas plus, pour qu'Alger réexamine l'application des accords passés avec la France. Nous voulons qu'enfin les accords soient respectés, insistait le Premier ministre, menaçant de remettre en cause l'accord de 1968 qui donne aux Algériens des droits et des facilités uniques en France. Il s'agissait bien sûr de faire pression pour qu'Alger reprenne ses ressortissants jugés indésirables et libère l'écrivain Boualem Sansal. Mais rien n'a été fait. Le Quai d'Orsay et l'Élysée privilégiant sans cesse la négociation. De quoi susciter la colère de certains parlementaires, comme le député UDR Olivier Fessa, il y a quelques jours dans l'hémicycle.
Le gouvernement français s'est couché, le pouvoir algérien l'a piétiné. Tebboune joue, la France attend. Et Boualem Sansal croupit. Allez-vous enfin oser le rapport de force ?
Un rapport de force toujours souhaité par Bruno Retailleau. Ce sera le message défendu par le ministre de l'Intérieur lors de son entretien avec Emmanuel Macron jeudi.
À 11h56, on va marquer la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive dominée évidemment par la suite du Tour de France. Et ce sera ensuite le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Votre enfant a grandi, il devient trop grand pour la crèche ou pour la nounou, mais il n'a pas encore l'âge pour la maternelle. Éducare a la solution. Éducare, une prématernelle idéale pour l'épanouissement et la sécurité de votre enfant. Avec son jardin de 500 mètres carrés, un grand nombre d'activités, une équipe professionnelle et diplômée. Appelez le 25 96 01 ou sur Facebook Éducare NC.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France. Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Infomag, l'actualité sportive avec bien sûr le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Il ne reste plus que 6 jours avant que les coureurs du Tour de France referment cette grande boucle 2025 sur les Champs-Élysées qu'ils vont retrouver. Mais le programme qui les attend jusqu'à Paris est chargé. Ils devront en effet traverser les Alpes et quelques sommets légendaires. À propos de sommets mythiques, c'est le redoutable Mont Ventoux qui les attend la nuit prochaine pour nous, pour la 15e étape du Tour. Théo Grévin pour Europe 1.
Une 16e étape de 170 km qui partira de Montpellier. Alors dans un premier temps, les coureurs seront épargnés environ 130 km de plat. Mais après ça, ils auront rendez-vous avec la seule, l'unique difficulté de la journée et pas des moindres, le Mont Ventoux, le géant de Provence comme on le surnomme. Col hors catégorie, presque 16 km d'ascension et une pente moyenne à 8,8%. Un final à ne pas louper pour Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France dans les années 70.
C'est une étape mythique, le sommet du Ventoux c'est mythique, donc tout le monde est motivé à 200% pour essayer de remporter cette étape-là ou seulement se distinguer dans cette étape-là. Dans le Ventoux, c'est une épreuve de vérité, hein. Le plus fort est devant, forcément, il n'y a pas de place aux aléas dans une montée comme ça.
Voilà, pas de place pour les imprévus et Bernard Thévenet sait de quoi il parle. Lui-même a remporté une étape au sommet du Mont Ventoux en 1972 et demain, selon lui, c'est bien Tadej Pogacar qui partira favori. Le maillot jaune slovène a déjà 4 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard, deuxième au classement général, qui expliquait tout de même encore aujourd'hui pouvoir faire la différence cette semaine et gagner le Tour de France. Alors, mission impossible ou non ? Réponse demain après-midi.
Demain après-midi, c'est-à-dire la nuit prochaine pour nous, bien évidemment, décalage horaire oblige. Un mot de l'actualité sportive en Calédonie avec ce communiqué du président de la Fédération calédonienne de football, Gilles Tavergeux, qui réagit à la situation de la gouvernance de la Fédération. Un conseil fédéral, s'était tenu le 21 juin dernier pour suspendre l'actuel président. Gilles Tavergeux rappelle que seul le président peut convoquer et fixer l'ordre du jour du Conseil fédéral et que ce dernier n'a pas autorité pour suspendre le président. C'est l'Assemblée fédérale seule qui en a le pouvoir. Ainsi, selon Gilles Tavergeux, il reste, je cite toujours, le président de la Fédération calédonienne de football légalement élu, reconnu par la FIFA et l'OFC et enregistré au commissariat. Cela jusqu'à la prochaine Assemblée fédérale élective. Fin de citation. C'est la fin de ce journal. Il est exactement midi. On va se retrouver dans le magazine Citoyen dans un instant avec nos invités pour parler des textes adoptés hier par les élus du Congrès, qui est notamment cette proposition de loi du pays qui permet de relancer les secteurs affectés par la crise. À tout de suite.
RRB pour être les premiers et les mieux informés.